Chapitre 20. Coup de théâtre. S'il était un accueil auquel Florent ne s'attendait pas, ce fut bien celui que M. et Mme Marandier lui réservèrent. Alors que, la fois précédente, il s'en était fallu d'un rien qu'on ne l'eût fait chasser par les domestiques, on le reçut cette fois à bras ouverts. Il y avait eu un malentendu. Jamais on ne s'était opposé à un mariage. On avait voulu simplement apprendre à le connaître, s'habituer à lui et surtout à l'idée de se séparer d'une enfant chérie. Il avait eu tort de s'imaginer qu'on le détestait. Tout le monde a des mouvements d'humeur. On ne juge pas les gens sur ces derniers. Évidemment, M. Marondier avait eu quelques paroles un peu dures au sujet du jeune homme, mais un père qui aime sa fille n'est-il pas excusable de considérer avec antipathie celui qui la lui prendra? Enfin, il fallait oublier tout cela, repartir, comme eût dit un de ses collaborateurs, sur des bases nouvelles. Florent fut dupe de ce langage, d'autant plus que Daniel assistait à l'entretien et qu'il devinait qu'elle souhaitait de toutes ses forces une entente entre sa famille et l'homme qu'elle aimait. On l'invita à venir quand il voudrait. Dans la semaine qui suivit, on l'autorisa même à sortir avec Daniel. Florent n'avait plus reparu chez sa mère. Il était comme ivre de bonheur. Il y avait une dizaine de jours que cette vie idéale durait, lorsqu'un après-midi, M. Marondier ne se rendit pas à son bureau. Daniel voulut lui demander s'il ne se sentait pas bien. Sa mère l'en empêcha. « Je voudrais, lui dit-elle, que tu m'accompagnes cet après-midi chez Tante Claire. » « Mais tu sais bien, maman, que Florent va venir tout à l'heure. »« Tu le verras demain. Tu peux bien, pour une fois, me donner ton après-midi. »« Tante Claire serait tellement déçue si tu ne venais pas. »« Ton père expliquera cela à Florent. Il comprendra bien. »« Et puis, bientôt, vous vous marierez. Nous ne t'aurons plus, alors. »« Laisse au moins à ta mère le plaisir de t'avoir auprès d'elle jusqu'à ton mariage. » Daniel ne put faire autrement que d'accompagner sa mère. Cette dernière n'avait pas son expression habituelle. Elle semblait triste, lointaine. Certainement, elle avait un chagrin, et Daniel crut qu'elle en était la cause. Lorsque la mère et la fille furent sorties, M. Marondier se mit à aller et venir nerveusement. Lui non plus n'avait pas son expression habituelle. Comme sa femme, il semblait la proie de soucis profonds. Son teint était plus jaune que d'habitude. De temps en temps, il se retournait à demi, comme s'il avait peur de quelque chose, puis il se remettait à marcher, la tête baissée. Il n'avait plus rien de commun avec l'homme qu'il avait été quelques jours plus tôt, cet homme rayonnant de la joie d'avoir retrouvé son enfant. Parfois, il s'asseyait à son bureau. Alors, c'était plus fort que lui. Il fallait qu'il ouvrît le tiroir et qu'il relût pour la 50e fois la lettre suivante, lettre qu'il avait reçue il y avait 4 jours. « Cher monsieur et ami, je vous annonce mon retour pour la semaine prochaine. Comme vous le voyez, je ne reste pas à Cannes jusqu'à Noël. Vous êtes un peu la cause de la modification que j'ai dû apporter à mon programme. Vous m'aviez laissé entendre, avant mon départ, que vous viendriez avec mademoiselle votre fille me retrouver ici. Or, il n'en a rien été. Vos lettres, d'autre part, n'ont jamais été si rares. Aurais-je démérité sans le vouloir et sans le savoir ? Je ne vous demande pas de me répondre, car je quitte Cannes ce soir même, pas pour Paris encore, rassurez-vous, mais pour Marseille, où j'ai promis de passer 5 ou 6 jours chez des amis délicieux que je vous ferai connaître un certain soir où les parfums se mêleront au chant des matelots. L'heure est exquise à celui qui sait la vivre. Nous nous quittons, cher monsieur et ami, la main dans la main et grands amis, n'est-ce pas ? Et c'était signé noblement, Fleurac. D'un geste là, M. Marondier repoussa le tiroir, puis, s'adossant à son fauteuil, la tête en arrière, le regard fixé au plafond, il demeura longtemps sans faire un mouvement. Soudain, il tressaillit. Du bureau, il percevait une sorte de roulement sourd qui s'arrêta brusquement. C'était l'ascenseur. M. Marondier se leva, cambra non sans difficulté sa taille, caressa ses joues de sa main droite ouverte en remontant pour s'assurer qu'elles étaient bien rasées. Ce fut à ce moment que le valet de chambre introduisit Florent Maugas dans le bureau. Le jeune homme avait changé à son avantage en cette dernière semaine. la gentillesse avec laquelle les Marondiers le traitaient, la joie qu'il éprouvait de ne plus dépendre de sa mère, de voir Daniel si heureuse, avait fait de lui un autre homme. Jamais il n'avait travaillé avec autant d'ardeur que depuis cette réconciliation générale. Évidemment, il sentait bien que cette cordialité dont on l'entourait était surtout causée par la crainte qu'avaient les Marondiers que leur fille ne repartît. On l'acceptait pour garder Daniel. Mais enfin, on ne semblait plus trouver comme avant son mariage irréalisable. C'était l'essentiel. « Je vous attendais, » fit gravement M. Marondier. « Mademoiselle Daniel n'est pas là ?» demanda Florent, à qui cet accueil commençait à paraître suspect. « Non, elle a accompagné sa mère chez une tante. Vous la verrez peut-être tout à l'heure. Asseyez-vous, j'ai à vous parler longuement. » Florent obéit. Il était un peu ému. Ce qui l'inquiétait surtout, c'était la bonté avec laquelle lui parlait M. Marondier. Si ce dernier, faisant appel aux sentiments généreux du jeune homme, lui demandait dans l'intérêt de Daniel de renoncer à cette dernière, que pourrait-il répondre ? La brutalité, l'arrogance, la colère ne lui faisaient pas peur. Mais aux supplications d'un homme usé, qu'opposerait-il ? Je vais vous faire un aveu, Florent. J'ai voulu être seul avec vous. C'était la première fois que M. Marondier appelait le peintre par son prénom. La gêne de Florent s'en accrut. Toute cette sympathie n'était-elle pas destinée à lui lier bras et jambes ? Pourquoi ? Demanda le peintre assez froidement. Parce qu'il le fallait. En disant cette phrase énigmatique, M. Marondier s'approcha du jeune homme. Il le fallait, continua-t-il, cependant que ses yeux remuaient vivement dans la chair flétrie qui les entourait. Il le fallait parce que personne d'autre que vous et moi ne doit savoir ce que je vais vous révéler. Il s'arrêta pour prendre sa respiration. Florent, vous êtes mon fils. Rien au monde, rien, absolument rien, ne put surprendre le peintre davantage. Comment ? Il était le fils de M. Marondier ? M. Marondier était son père ? C'était incroyable, impossible, invraisemblable. Ou M. Marondier était devenu fou, ou il se moquait de lui. Il y avait dans Paris 4 millions d'habitants, et le hasard faisait qu'un jour, un homme parmi ces 4 millions de personnes se disait son père. Non, il rêvait. Écoutez-moi, Florent, vous allez tout comprendre. Oh, je me rends compte de ce que cet aveu a de surprenant. Mais écoutez-moi attentivement. Il y a 26 ans, j'ai aimé votre mère comme on aimait dans ce temps-là, ou du moins comme on se vantait d'aimer, c'est-à-dire à la folie. J'étais déjà marié. J'étais donc obligé, pour me rendre libre, d'user de ruses contraires à mon caractère qui aspire à la paix. Ma femme devenait de plus en plus jalouse. Un jour, votre mère m'annonce qu'elle est enceinte. J'avoue qu'alors je me suis mal conduit. J'ai eu peur. Je n'ai eu qu'une pensée, éviter le scandale. J'ai acheté le silence de votre mère. Quand vous êtes né, elle m'a supplié de vous reconnaître. J'ai refusé, craignant de donner une arme contre moi. J'avais un ami, un brave garçon, du nom de Bogas. Il avait, lui, pour votre mère, une profonde admiration. Quand il a vu comment je me conduisais, il s'est rapproché de votre mère et l'a consolée. Puis ils se sont mariés et, pour que vous ayez un père, il vous a reconnu. Mais votre père, votre vrai père, ce n'est pas lui, c'est moi. » M. Marondier dut s'interrompre un instant. Il était couvert de sueur et sa voix était voilée comme s'il avait parlé des heures. « C'est extraordinaire !» balbutia Florent. « Laissez-moi finir. Les années ont passé. Mogaz est mort. Un soir, votre mère m'a téléphoné. Elle m'a demandé de l'argent. Elle désirait partir au loin. Je le lui ai donné, mais je n'ai pas voulu la revoir. Depuis, je n'ai jamais plus eu de ses nouvelles. Je croyais qu'elle était morte. Je l'avais complètement oubliée, et quand, il y a quelques semaines, vous veniez régulièrement à la maison, j'étais loin de soupçonner que vous étiez son fils, et par conséquent le mien. » Je n'avais pas porté une attention particulière à votre nom. Si nombreux sont ceux qui le portent, et tant d'années s'étaient écoulées que je ne songeais pas une seconde que vous pouviez avoir le moindre lien avec celle que j'avais tant aimée. Or, il y a 12 jours qu'elle n'a pas été ma stupeur lorsque mon valet de chambre m'a annoncé qu'une dame disant s'appeler Maugaz demandait à me parler au sujet de ma fille. Immédiatement, je fis un rapprochement entre vous et cette personne. Ma femme était absente. J'en profitai pour recevoir la visiteuse. C'était bien mon ancienne maîtresse. Un instant, je crus que j'étais victime d'une odieuse machination, que cette femme pour laquelle, jadis, j'eusse donné ma vie, venait me faire chanter. Je me trompais lourdement. Sans faire la moindre allusion au passé, elle m'apprit que Daniel habitait chez elle, que vous l'aimiez. Une heure plus tard, comme vous le savez, je me rendais avec ma femme, qui naturellement ignorait tout, comme elle l'ignore encore à présent, des liens qui m'avaient jadis uni à votre mère, avenue du général Thierry. Vous êtes donc vraiment mon père ? Demanda Florent, qui n'avait pas encore songé que Daniel était en conséquence sa sœur. Oui, Florent. Le jeune homme se troubla. Souvent, il avait songé, non sans amertume, à ceux qui avaient eu le bonheur de grandir sous la protection d'un père. Il s'était mis alors à pleurer en comparant sa destinée à la leur. Qu'ai-je donc fait, avait-il pensé, pour que le sort m'ait été si cruel? Or, aujourd'hui, tout était réparé. Son père, M. Marondier, était là devant lui. Vous êtes mon père ? Murmura le peintre, rouge de joie et de surprise, en regardant M. Marondier avec d'autres yeux. Je suis votre père, Florent. Un tel besoin de tendresse envahit le jeune homme qu'il dut se retenir pour ne pas se jeter dans les bras de M. Marondier. Tout s'éclairait autour de lui. En l'espace d'un instant, il s'était senti devenir un autre. Il n'était plus obligé, comme avant, de compter uniquement sur lui-même. Un père veillerait désormais sur lui, le protégerait, l'encouragerait. À présent, n'allait-il pas être digne de Daniel? On ne pourrait plus lui reprocher ses origines inconnues. Soudain, il pâlit. Mais Daniel était sa sœur. Et Daniel ? Demanda-t-il d'une voix tremblante. Elle est votre sœur, répondit M. Marondier. Ma sœur ? Oui. Ce n'est pas possible. Que dites-vous ? Daniel est ma sœur ? Oui, Florent, mais il ne faut pas qu'elle le sache. Promettez-moi, promettez à votre père de ne jamais le lui dire. Si elle apprenait une telle chose, ma pauvre enfant en tomberait malade. Elle n'oserait plus me regarder. Je deviendrais à ses yeux une sorte de monstre. Je vous en supplie, il faut que toujours elle ignore la vérité. » Florent ne put en entendre davantage. Il eut un vertige, tomba en arrière et perdit connaissance. Quand il revint à lui, son père était près de lui, une serviette dans une main, un verre dans l'autre. « Papa !» murmura le peintre, qui voyait encore tout ce qui l'entourait à travers un brouillard. « Florent, je te donne des soucis. » Il se reprit aussitôt. « Je vous donne des soucis, » répéta-t-il. « Si quelqu'un est fautif, ce n'est pas vous, mon enfant. Que cela vous serve de leçon pour l'avenir. Il y a une justice en ce monde, quoi que certains prétendent. » Il arrive tôt ou tard un moment où nous devons rendre compte de nos erreurs. Le jeune homme se leva, prit le verre d'eau de la main de son père, le but d'un trait. « Daniel, Daniel, balbutia-t-il, je comprends à présent pourquoi il a suffi que vous paraissiez une seconde devant moi pour que le reste du monde cessât d'exister. Vous étiez ma sœur, j'étais votre frère. Si notre esprit l'ignorait, quelque chose en nous, notre instinct peut-être, le savait. Encore une fois, Florent, promettez-moi de ne jamais rien dire de ce que vous venez d'apprendre à Daniel ni à ma femme. C'est ma punition. Je vous le promets. » M. Marondier s'approcha de son fils, posa une main sur son épaule. « Elles vont arriver tout à l'heure. J'ai confiance en vous. »« Elles vont arriver ?» À la seule pensée qu'il allait revoir Daniel, Florent se mit à trembler des pieds à la tête. « J'aime mieux ne la voir que demain, » dit-il péniblement. « C'est un tel coup, comprenez-vous. J'ai besoin de me recueillir. Je m'en vais. Dites-lui que je n'ai pas pu l'attendre, qu'elle me pardonne. » Sur ces mots, Florent se dirigea d'un pas mal assuré vers la porte. Ses oreilles bourdonnaient. Tous les deux pas, il trébuchait. M. Marondier, qui l'accompagnait, le soutenait alors paternellement.